Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, hausse de prix du sac de ciment gris en Bujimaï. Nous sommes au Kasaï Oriental qui se négocie actuellement entre 40 et 42 dollars. La Fédération des entreprises du Congo et les importateurs de ces produits parlent de la rupture des stocks sur la ville de Mbujimaï. Effondrement depuis hier lundi du pont Ituri qui relie les territoires de Beni dans la province du Nord Kivu à celui de Mambasa en Ituri. Des agents de l'État commis au contrôle des tonnages affectés sur place sont soupçonnés de fermer les yeux sur le poids des camions, une situation qui inquiète les acteurs sociaux et politiques. L'invité de ce journal est l'inspectrice principale provinciale de la province éducationnelle Maniema 1. Godelive Mwinda Kandongo appelle les femmes de son secteur à s'intéresser au numérique et à se mobiliser pour l'adaptation à la mondialisation numérique dans le cadre du mois du droit de la femme. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Kasaï Oriental, hausse de prix du sac de ciment gris en Mbujimaï. Le sac de ciment qui se vendait il y a deux semaines à 35 dollars se négocie actuellement entre 40 et 42 dollars. La Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle et les importateurs de ces produits parlent de la rupture des stocks sur la ville de Mbujimaï. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis le week-end dernier que la rupture des stocks du ciment gris est observée sur la ville. Plusieurs dépôts de vente de ciment sont fermés. Jean-Marie Mbouyi, chef de dépôt d'Onamike, donne les raisons.
Nous n'avons pas de stock suite à des déraillements, le train.
Le sac de ciment se négocie actuellement chez les revendeurs entre 40 et 42 dollars. Madame Mouchia affirme qu'il n'y a pas de marchandises chez les importateurs.
Il n'y a pas d'arrivage. Dans les grands dépôts, il n'y a rien, même un sac.
Suite à la hausse des prix des ciments, Nathan Ilunga, chef de chantier, opte pour l'arrêt des travaux de construction des maisons.
On ne peut pas évoluer avec le travail parce que le prix du ciment est tellement, c'est exorbitant même. Il faut même arrêter le travail parce qu'on ne saura pas comment faire les calculs.
Dominique Ilunga, directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle, demande à la SNCC d'acheminer les wagons de marchandises des clients à Mouneditou.
Il n'y a pas de wagons. On ne sait pas transporter, on ne sait pas acheminer la marchandise ici au Kasaï Oriental pour le moment. Tout est bloqué.
Des sources concordantes affirment qu'un bateau remorqueur des barges transportant le ciment est arrivé à Lusambo la semaine dernière pour acheminer la cargaison en Domba. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Kapi.
Pendant ce temps, à Kalemi, les prix de la farine de maïs ne cessent de prendre l'ascenseur depuis un certain temps. Un sac de 25 kilos qui se vendait à 30 000 francs congolais se négocie actuellement à 55 000 francs congolais. D'après les vendeuses trouvées au marché qui s'est moué, c'est entre autres dû à l'insécurité et à l'achat de plusieurs stocks de maïs par les organisations humanitaires. Du côté de la Fédération des entreprises du Congo, section du Tanganyika, la cessation par la Zambie de l'exportation du maïs en RDC explique en partie cette situation. Le point avec Paul Munanga.
Au marché Kisebwe, l'un des plus importants marchés de Kalemi, une mesurette dénommée Kwaker qui se vendait à 1800 francs congolais il y a quelques jours, se négocie actuellement à 2000 francs. Quelques vendeuses à qui nous avons tendu les micros soulignent que la ville de Kalemi ne produit pas le maïs. D'après elles, le maïs qui alimente Kalemi provient du territoire de Moba, Nyunzu ou de la Tanzanie et de la Zambie. Elles ajoutent que plusieurs facteurs expliquent cette hausse du prix de cette denrée de première nécessité pour la population de Kalemi. D'après elles, certaines ONG qui organisent des foires à l'intérieur de la province au bénéfice des déplacés achètent une grande quantité de maïs à Kalemi, ce qui provoque un déficit en maïs dans la ville. Et puis, la population de Kalemi ne cultive plus, suite d'après les vendeuses, à l'insécurité causée par des miliciens dans la périphérie de la ville. Je demande à l'État congolais de prendre des mesures contre ces miliciens. Nous avons besoin de la paix pour cultiver nos champs. Aujourd'hui, la charge de la maison est entre les mains de la femme. Pour le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Tanganyika, cette situation est consécutive à la décision de la Zambie de ne plus exporter le maïs en RDC. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Effondrement hier lundi du pont Ituri, reliant le territoire de Beni dans la province du Nord Kivu à celui de Mambasa en Ituri, ce qui inquiète les acteurs sociaux et politiques. Diverses sources rapportent en effet que ce pont s'est affaissé lorsqu'un gros camion surchargé ramenant de la marchandise de Beni à Kisangani effectue la traversée. Des agents de l'État commis au contrôle des tonnages affectés sur place sont soupçonnés de fermer les yeux sur le poids des camions. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Ce pont de près de 96 mètres de long et de 5 mètres de large permet au FRDC d'organiser des patrouilles de combat dans la zone où sévissent les rebelles d'ADF et Mai Mai qui attaquent les villages situés dans la région. Il s'agit notamment des villages de Teturi, Luemba et Biakato. Lorsque ces hommes armés font des incursions dans ces villages, les habitants traversaient le pont endommagé pour aller trouver refuge à Mambasa centre et sa périphérie pour être en sécurité. Désormais, s'alarme le coordinateur de la nouvelle société civile de ce territoire, les populations sont désemparées. John Vouleverio.
La population sera alors asphyxiée et qu'une probable insécurité semble alors s'imposer dans la zone, étant donné que tant les militaires qui sont vers la rive de Mambasa, il ne sera plus facile pour eux de rejoindre les autres villages qui sont sur l'autre rive. Ces zones, ce sont des zones très dangereuses. Le fait pour les ports de se casser peut constituer aussi autre série de sécurité à l'égard de la population qui est dans la zone.
Contacté, le porte-parole des opérations militaires des FARDC en Ituri indique que le génie militaire de l'armée est déjà à pied d'œuvre pour remettre en service ce pont dans un bref délai. Bounia Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, les agents de la coordination provinciale de l'environnement ont manifesté hier à Kisangani. Ils ont cadenassé tous les bureaux et se sont placés juste à l'entrée principale de leur bâtiment administratif. C'est pour s'opposer à la réhabilitation de l'ancien coordonnateur provincial de ce service. Conséquence, le travail est bloqué dans différents services tels que la signature des fiches des agents devant leur permettre d'aller subir les contrôles biométriques en cours dans cette entité. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Sur le calico exposé à l'entrée de l'enceinte de la coordination provinciale de l'environnement, on peut lire le refus de la réaffectation de l'ancien coordinateur Félicien Maloudi Sambola à son poste. Qu'est-ce qui lui est reproché? Un manifestant explique.
Nous avons travaillé avec l'ancien coordinateur, il n'y avait pas un bon climat de travail.
L'incriminé confirme sa réhabilitation après un recours introduit auprès du ministre de tutelle. L'ingénieur Félicien Malou, tout en reconnaissant les droits de manifestation, sent dans celle organisée par ses agents l'odeur de la manipulation.
Ces agents sont seulement mal intentionnés, ils sont manipulés. Il y a des agents qui dénoncent déjà que leur nom a été inséré dans ces mêmes arbitrairement. Ils n'ont pas pris part active dans leur démarche, mais leur nom se trouve dans ces documents.
Par cette manifestation, le coordinateur intérimaire s'est dû bloquer dans son travail. Médard Monganzolo exhorte ses collaborateurs au bon sentiment.
Je demande aux agents et cadres de la coordination provinciale de l'environnement d'être calmes, d'ouvrir les bureaux pour nous permettre de travailler.
Alors que Félicien Malou attend son installation officielle par l'autorité provinciale, la ministre provinciale de l'Environnement par intérim, Dr Anel Kamba, promet de se prononcer sur cette question dans les heures qui viennent. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Province du Maniema, les enseignants de la sous-division de l'EPST Kasongo de Samba dans le territoire de Kasongo sont en grève il y a de cela 12 jours. La société civile Force Vive du Maniema, sous antenne de Basongue 1, parle de conséquences graves et demande le paiement des salaires des enseignants pour que les enfants reprennent les chemins de l'école. Abedi Kazimoto Dallas parle au micro de Florence Kizalunga.
Il y a de cela 12 jours depuis que les enseignants dans la sous-division de l'EPST Kasongo de Samba, qui compte 125 écoles, ont amorcé leur mouvement de grève et on se demande jusqu'à quand ceci prendra fin. Est-ce qu'il y aura-t-il un calendrier aménagé propre à cette sous-division? Est-ce que le programme sera-t-il respecté? Et si cela ne se fait pas, c'est un génocide intellectuel ou un cadeau empoisonné qui sera offert aux enfants, alors que l'on décrit tous du niveau de l'enseignement qui tend au rabais. Aujourd'hui, comme conséquence, les enfants en nombre pléthorique, privés des enseignements, même des mineurs, prennent la direction des carrières, Bikenge, Saramabila, Lunga, et de là, nous risquerons d'adorer à une messe délinquante qui ne dira pas son nom. Bandits mais armés, coupeurs de routes, frappeurs, ainsi de suite. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement de régulariser avec la Caritas pour payer le mois de février dans 48 heures afin que les enfants rebroussent le chemin de l'école de ce lundi.
Le processus électoral en cours est biaisé et la situation socio-économique de la province du Haut-Katanga est alarmante. Déclaration de Christian Mwando au représentant de Moïse Katumbi au cours de la conférence de presse qu'il a animée hier lundi à Lubumbashi. Il appelle la population à la vigilance jusqu'à la fin de ce processus. Par ailleurs, il déplore le fait que les produits agricoles pourrissent à cause du mauvais état des routes des districts agricoles. Jean Gandou.
C'est devant un bon parterre de journalistes de Lubumbashi que Christian Mwando a animé cette conférence de presse. Pour lui, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs telles qu'elles sont menées n'augurent rien de bon.
Il a fallu un accident de circulation routière pour qu'on se rende compte qu'il y a des gens qui ont les kits d'enrôlement dans leur véhicule privé. Kadima, peut-il nous dire combien de kits il avait, combien ont été distribués, qui fait l'enrôlement et qui ne le fait pas ? Nos populations se plaignent. Il était avant question de payer 5 000 francs. Avec les 10 jours qui restent, on arrive à 20 000 francs pour se faire enrôler. Nous avons des doutes très sérieux sur le processus électoral.
Malgré cela, indique-t-il, il est hors de question que son parti puisse se désengager de ce processus. Au sujet de la situation socio-économique de la province, pour Christian Mwando, l'heure est grave. Le prix de la principale denrée alimentaire, qui est la farine de maïs, n'est plus à la portée de toutes les bourses. Un sac de 25 kilos se négocie jusqu'à 75 000 francs congolais, a-t-il ajouté. Il attribue cela au manque de vision des dirigeants de la province.
Les produits agricoles sont bloqués à l'intérieur, faute de routes. On ne dépend que de Kasumbalesa et de la Zambie. C'est une question de vision.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, les hommes du M23 ne sont plus visibles depuis ce mardi matin sur quelques autres positions qu'ils occupaient déjà autour de la cité de Kichanga, en territoire de Masisi. Selon nos sources, ces rebelles sont toujours cependant dans la cité de Kichanga. C'est depuis hier lundi que ces rebelles retirent leurs troupes de certains villages des territoires de Rutshuru et de Masisi. Des détails avec Blaise Sindani Kambala.
Ces rebelles soutenus par le Rwanda, même s'ils ne sont plus vraiment visibles dans les centres de Kichanga, sont toujours présents dans cette cité, renseignent les sources civiles contactées sur place. Ces sources précisent qu'effectivement, ces rebelles ont quitté depuis hier l'agglomération de Mweso et ses environs, qui sont aussitôt passés sous occupation des Mai Mai et des Nyatura. Toujours dans les Masisi, les rebelles ont quitté seulement quelques collines autour de Sake. C'est comme Ngingwe, Nenero et Malé, en prenant la direction de Kiloliru, passant par Kabati. Cependant, selon les dernières précisions, les hommes du M23 sont toujours à Karuba et Mushaki. Du côté de Rutshuru, après le départ des rebelles de Kibirizi, chefferie de Bwito, cette autre entité a été reconquise par l'armée, mais on y trouverait aussi quelques combattants Maïmaï, selon plusieurs sources. Les vrais motifs de ce retrait ne sont pas encore connus. Quelques sources redoutent une stratégie des rebelles pour renforcer leur position dans le parc autour des Goma et Sake pour des prochains assauts. Côté force régionale de l'EAC, aucun programme d'un déploiement n'est annoncé dans ces zones de retrait de rebelles.
Et puis le contingent militaire angolais arrive en RDC, tel qu'annoncé par la présidence angolaise le week-end dernier, sans précision de calendrier fixe. Information confirmée par le vice-premier ministre, ministre en charge des affaires étrangères. Christophe Lutundula s'exprimait ainsi lors de la conférence de presse conjointement animée avec le ministre des médias, Patrick Muyaya. Selon Christophe Lutundula, le mandat du contingent angolais n'est pas offensif, mais c'est de vérifier si les M23 respectent le principe des cantonnements sécurisés, selon ses propres mots, tels que décidés par le ministre sommet d'Addis Abeba. Christophe Lutundula est au micro de Paul Matendo.
Le ministre sommet d'Addis Abeba, plus le président Lorenzo, a décidé de confier à l'Angola la charge de notifier chaque fois les recommandations et les décisions prises par le mini-sommet. Tout le monde a été informé et l'Angola a dit, en vertu du mandat qui m'a été confié, voici ce que je fais, j'amène, je crois que ça doit être au niveau d'un bataillon, avec tout l'équipement qu'il faut, pas pour aller attaquer, je ne vous mentirai pas en vous racontant des histoires, mais pour faire en sorte que ce qui a été décidé, notifié au M23, soit exécuté, notamment en vérifiant comment les choses se passent. Et je crois que l'Angola veillera à ce que le cantonnement se fasse et que ce cantonnement soit un cantonnement sécurisé. Voilà, grosso modo, l'Angola est dans son mandat. Et l'Angola a informé les chefs d'État concernés et donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Nous ne pouvons que souhaiter que cela aille bien.
Actualité internationale.
Le Malawi a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions du sud du pays, dont celle de la capitale économique, Blantyre, après le retour meurtrier du cyclone Freddy, annonce faite hier lundi par la présidence. Le chef de l'État, Lazarus Chakwera, a constaté avec une grande préoccupation la dévastation que le cyclone Freddy est actuellement en train de provoquer dans de nombreux districts. Signalons que le cyclone Freddy a fait plus de 100 morts au Malawi et au Mozambique en revenant frapper l'Afrique australe, ont indiqué hier lundi les autorités. La Corée du Nord a procédé ce mardi à de nouveaux tirs de missiles balistiques, a annoncé à Séoul l'état-major interarmé qui mène en ce moment des exercices conjoints de grande ampleur avec les États-Unis. La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié en direction de la mer de l'Est, a déclaré l'état-major interarmé dans un communiqué en référence à l'étendue également connue sous le nom de mer du Japon.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'inspectrice principale provinciale de la province éducationnelle Maniema 1. Codelive Mwinda Kandongo a organisé le week-end dernier à Kindu une conférence débat en faveur de femmes de l'EPST Maniema 1 pour les inciter à s'intéresser au numérique. C'était sous le thème « Femmes et filles de l'EPST Maniema 1 mobilisées pour l'adaptation à la mondialisation numérique dans le cadre du mois des droits de la femme ». Godelive Mwinda Kandongo s'entretient avec Florence Kizalunga.
Godelive Mwinda, bonjour.
Bonjour.
Quel sens que vous donnez à cette conférence débat que vous, les femmes de l'EPST, vous venez d'organiser aujourd'hui?
Vous connaissez le thème de cette année ici, relatif au mois de la femme. Nous avons voulu exploiter ce thème-là et nous nous sommes rendus compte que ce thème-là est venu à point nommé en ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne les femmes de l'EPST, c'est un thème qui est venu à point nommé parce que vous vous êtes rendu compte dans la salle que la plupart d'entre nous ne savent pas utiliser ne fût-ce qu'un ordinateur. Et c'est très grave dans un monde tel que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est la moindre des choses que nous puissions manipuler l'ordinateur. C'est un défi que nous devons relever au niveau de notre ministère.
Alors, comment comptez-vous relever ces défis?
Former la femme à être capable de s'insérer dans ce monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus complexe. La femme ne doit pas rester en reste, être en retard par rapport à l'homme. Quand vous observez notre société, les garçons sont plus aptes et ça donne plus à l'utilisation de numérique que les femmes. C'est pour cela que nous devons pousser les femmes à être sur le même pied d'égalité que l'homme. Ce n'est pas facile, mais il faut commencer quelque part.
Vous avez quelle stratégie pour arriver à pousser la femme de l'EPST à pouvoir s'intéresser au numérique?
Nous avons un centre de ressources pour enseignants. Ce centre, je me suis rendu compte qu'il est un centre de ressources pour enseignants, mais qui n'est pas utilisé pour le moment comme il devait l'être. Nous allons utiliser ce centre-là, le redynamiser pour arriver à former les mamans, à former les enseignants, en commençant par les enseignantes et celles de nos bureaux d'abord.
Vous disposez d'un centre de ressources pour enseignants de Kindu, bien sûr. Est-ce que ce centre dispose des outils informatiques et capables et nécessaires pouvant vous servir d'encadrer les femmes et filles de la province éducationnelle Maniema 1?
Les centres de ressources disposent des outils insuffisants pour la formation des enseignants et des enseignantes, surtout de Maniema. C'est ainsi que nous avons lancé un cri d'alarme à nos autorités, aux hommes de bonne volonté, de nous aider à enrichir notre centre de ressources afin qu'il puisse répondre aux attentes des enseignants et des enseignantes.
Là, vous avez parlé du côté des enseignants, mais qu'en est-il des élèves, étant donné que nous savons que dans le programme scolaire, il existe le cours d'informatique. Est-ce que dans les écoles, ce cours est pris en compte, surtout dans sa partie technique?
Dans les écoles, le cours existe sur programme. Mais là, je m'adresse à la bonne volonté de chef d'établissement s'il pouvait, par année, acheter ne fût-ce qu'une machine. Après plusieurs années, on ne peut plus donner un cours théorique. Le cours d'informatique ne peut pas être un cours théorique. Les enfants n'ont que la théorie dans la tête. Ils n'ont jamais touché à un ordinateur. Ce n'est pas ça l'objectif du cours d'informatique. Donc, j'en appelle à la conscience des chefs d'établissement. Avec les peu qu'ils ont comme frais de fonctionnement, avec leur bonne volonté, ils peuvent graduellement acheter des ordinateurs pour les élèves. Parce que l'autorité s'est rendue compte qu'avec la mondialisation, nous ne pouvons pas ne pas continuer comme les autres. Avec la situation actuelle du monde, si nous ne nous adaptons pas à l'évolution du monde, nous ne pourrons pas évoluer et nous ne pourrons pas développer notre pays. C'est cela qui a motivé l'autorité à mettre sur pied ces programmes d'informatique. Mais il faut concrétiser les cours d'informatique et ne pas rester seulement sur l'aspect théorique. Nos enfants ont besoin d'être au même pied d'égalité que les enfants d'autres pays du monde pour justement concrétiser la mondialisation dont on vient de parler tout à l'heure. Nos enfants doivent s'adapter et être au même pied d'égalité que les autres enfants du monde.
Madame Godelive, pour terminer, quel message avez-vous à cette occasion à toutes les femmes et filles qui vous écoutent en ces moments?
Briser la peur, briser l'ignorance, briser tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Il faut que la femme que nous sommes, nous puissions briser tout cela et nous mettre au pied avec la volonté d'apprendre. Apprendre, se former, s'informer. Sans cela, nous resterons toujours derrière les hommes.
Madame Godelive Mouinda, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de ce journal, l'inspectrice principale provinciale de la province éducationnelle Maniema 1. Godelive Mouinda Kandongo était interrogée à Kindu par Florence Kizalunga. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.